Attention, attention, 1H moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mercredi 7 janvier 2026, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Quelle bonne idée! Je crois qu'on a toutes et tous remarqué en ce moment que ça glisse, non?
Ça glisse un peu. Oui.
Autour de la table, combien de fois vous vous êtes lamentablement vautré ces derniers jours?
Ah, pas encore,
en
moi.
Public.
Zéro.
On le dira, bon, pas de façon.
Moi, c'était ce matin, je me suis fait un peu mal. Je me permets donc de vous partager un petit conseil antidérapant extrêmement sérieux. Il provient de la Direction régionale de santé publique de Montréal, le Alberta Health Service. Une source fiable, on est d'accord. Ok, pas de réponse. Ouais. C'est fiable, c'est fiable, je vous le dis. Donc, les services de santé publique du Canada, un pays qui s'y connaît, a priori en termes de verglas, nous conseillent de marcher comme un pingouin pour éviter de glisser. Je vous jure, l'info a été relayée par Le Parisien aujourd'hui. Donc, écoutez bien, prenez des notes et surtout toi, Estelle. Buste légèrement en avant, main hors des poches, bras et jambes un peu écartés pour l'équilibre. Pied en V vers l'extérieur, faire de petits pas, avancer le pied à plat en traînant la semelle. De rien et attention en rentrant ce soir. Tout de suite, le flash d'Estelle.
Nous l'apprenions il y a quelques heures, les États-Unis ont annoncé la saisie d'un pétrolier russe dans l'Atlantique Nord. Une course-poursuite de 2 semaines alors que le navire eurasiatique était soupçonné de vouloir charger du pétrole vénézuélien. Un événement qui vient renforcer les tensions internationales autour de la Russie, particulièrement au lendemain d'un sommet des pays alliés de l'Ukraine. Déploiement de l'armée française, pression sur la Russie, rôle des États-Unis, l'AFCN fait le point sur la situation géopolitique et sur un sommet jugé historique.
Jour historique pour l'Ukraine et l'Europe. 35 États réunis à Paris pour la paix et la sécurité, communique l'Élysée. Hier, le palais présidentiel a accueilli le sommet de la coalition des volontaires, présidé par Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. Ce sommet avait pour objectif d'unir la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis autour d'un principe, une paix durable et juste sur le territoire ukrainien. Pour ce faire, les représentantes et représentants étatiques ont dû définir des mesures claires en matière de sécurité et de paix en Ukraine si un cessez-le-feu voyait le jour. Parmi les pays qui forment cette coalition en soutien à l'Ukraine, nous retrouvons la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, mais également une trentaine de pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne, ou encore le Japon, l'Australie et le Canada. Voici donc les 5 mesures signées par la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et plusieurs autres pays européens lors de ce sommet. 1. La mise en place d'un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu sous un leadership américain. 2. Un soutien aux forces armées ukrainiennes. 3. Le développement d'une force multinationale pour l'Ukraine limitée à 800 000 soldats. 4. Une législation encadrant ces engagements en cas de nouvelle attaque russe. Et 5. Un soutien économique à la reconstruction de l'Ukraine.
Et quel rôle la France a joué lors de ce sommet? Où se positionne notre gouvernement aujourd'hui?
Nous participerons à la régénération de l'armée ukrainienne, a affirmé le président Emmanuel Macron lors d'un entretien avec France 2 hier. Même si le président envisage le déploiement de plusieurs milliers d'hommes, il n'est pour l'heure pas question de les engager au combat. Leur mission? Participer à la reconstruction d'une force armée solide sur le territoire ukrainien. Pour lui, comme pour la coalition des volontaires et des États-Unis, l'objectif principal restera la surveillance du respect du cessez-le-feu. Cependant, malgré une forme d'optimisme et de solidarité apparente entre les pays membres de l'UE et de l'OTAN, les États-Unis semblent être un soutien flou et incertain. Ici, une majeure partie des espoirs de paix repose sur l'administration Trump. Alors que le Royaume-Uni a indiqué il y a moins de 2 heures avoir apporté son soutien à l'arrestation du pétrolier russe Marinera, Donald Trump n'affiche aucune confiance envers l'OTAN. Sur ses réseaux, le président américain déclare aujourd'hui douter que l'OTAN soit là pour les États-Unis s'ils ont besoin d'elle, ajoutant qu'ils seront là pour l'OTAN si nécessaire.
Des mesures se voulant concrètes, appuyées par plusieurs soutiens internationaux, donc. Cependant, le pays au centre des interrogations, c'est bien la Russie. Comment Moscou a-t-elle réagi face à ce sommet et à ces décisions ?
Eh bien, pour la coalition des volontaires, c'est désormais sur la Russie que tout repose. C'est à elle de décider si oui ou non, elle est volontaire pour avancer vers une paix durable. Selon le document émanant du sommet, le Kremlin doit à présent démontrer son engagement à mettre fin au combat en acceptant un cessez-le-feu. Dans cette optique, Emmanuel Macron a annoncé son désir de prendre contact avec le président russe Vladimir Poutine afin de pouvoir avancer sur ce conflit et sa fin potentielle. L'homme n'a pas encore formulé de réaction. Seule une opposition formelle à de nombreuses mesures a été communiquée, et en particulier au déploiement de forces internationales sur le sol ukrainien. Les concessions territoriales vers la Russie resteront sans aucun doute une question de poids dans l'application d'un cessez-le-feu, comme l'a affirmé de son côté Volodymyr Zelensky.
Merci Lafken. Une situation que nous réaborderons certainement sur 6 heures avant minuit, les passe-passe diplomatiques entre l'Ukraine, la Russie et les pays tiers s'enchaînant. Toujours dans le domaine géopolitique, le Groenland appartient à son peuple. C'est le message envoyé par 7 pays européens, dont la France, le Royaume-Uni et le Danemark, dans une déclaration commune publiée hier. Ils ont aussi appelé à assurer conjointement la sécurité de l'Arctique avec les pays de l'OTAN. Donald Trump affirme désormais étudier toutes les options pour prendre le contrôle du Groenland, y compris l'option militaire. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, prévient. Toute intervention américaine au Groenland provoquerait une implosion de l'OTAN, les deux pays étant membres de l'Alliance.
Oh. Un petit micmac dans tes bras,
ouais. Non, c'est bon, tout est bon.
On t'écoute.
Recueillement à Saint-Tropez pour bébé, mais aussi au Palais du Luxembourg pour les victimes de Grand Montana. Cet après-midi, un hommage aux victimes du bar La Constellation a été rendu au Sénat. Le président de la Chambre haute, Gérard Larcher, a adressé ses condoléances aux familles et salué le travail des services de secours. Ce moment de recueillement intervient alors que de graves manquements en matière de sécurité incendie ont été reconnus hier. Le président de la commune de Grand Montana, Nicolas Ferraud, admet de graves manquements. Pas de contrôle entre 2020 et 2025, absence d'alarme d'incendie et ignorance de l'usage d'objets pyrotechniques. De leur côté, les gérants de l'établissement, dans un communiqué publié hier, se disent dévastés et assurent se tenir à l'entière disposition de la justice. Et une bataille judiciaire de perdu pour Auchan. La cour administrative d'appel de Douai, dans le Nord, confirme l'invalidation du plan de sauvegarde de l'emploi du groupe. Annoncé en novembre 2024 et déjà rejeté en première instance, ce plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait la suppression de 2389 postes. Pour Franck Martineau, délégué FO d'Auchan Retail France, c'est une grande victoire pour les salariés. De son côté, la direction du groupe dénonce une décision juridiquement incompréhensible et fortement contestable. Auchan Retail annonce ce pouvoir devant le Conseil d'État pour obtenir l'annulation de l'arrêt. Live Nation, producteur des shows de Beyoncé et Lady Gaga, s'offre la plus grande salle d'Europe. Le groupe américain Live Nation a annoncé hier l'achat de Paris, la Défense Arena, auprès de la société de Jackie Lorenzi. C'est la première salle française rachetée par Live Nation, le montant de la transaction n'a pas été communiqué et l'opération doit être validée par l'autorité de la concurrence, ce qui peut prendre plusieurs mois. Une fois le feu vert donné, Live Nation prévoit un programme de modernisation. L'objectif ? Accueillir davantage de productions et renforcer la place de Paris parmi les capitales mondiales du spectacle vivant, dans un contexte de forte demande et de saturation de certaines salles. Pourrir la vie des narcotrafiquants, c'est le mot d'ordre du préfet d'Ille-et-Vilaine, Franck Robine, pour 2026. À l'occasion de ses vœux aux forces de sécurité intérieure, hier soir à Rennes, il a présenté ses priorités pour accélérer la lutte contre le narcotrafic dans le département. Le préfet mise sur trois leviers principaux. La fermeture des commerces soupçonnés de blanchir de l'argent sale, l'utilisation de l'interdiction de paraître, c'est-à-dire interdire aux trafiquants de se rendre sur leur point de deal, et l'expulsion de leurs logements sociaux pour les personnes impliquant dans le trafic. Franck Robine veut également faire la guerre aux consommateurs via l'amende forfaitaire délictuelle. Néanmoins, un point a été oublié, le volet de prévention des addictions. Le CHU de Rennes sous pression. Depuis plusieurs jours, l'hôpital fait face à une situation de très forte tension affectant le SAMU, les urgences et les services d'accès aux soins. Cette crise est alimentée par la grève des médecins libéraux lancée en début de semaine, mais aussi par un pic épidémique hivernal dominé par la grippe et les infections respiratoires. Face à cette situation exceptionnelle, le CHU a déclenché son plan blanc. Il permet d'adapter l'organisation interne, de renforcer la mobilisation des professionnels et de solliciter le soutien de tous les établissements de santé du territoire, public comme privé. L'hôpital appelle la population à une utilisation responsable des services d'urgence, aux cas les plus graves et aux situations engageant le pronostic vital.
Merci beaucoup Estelle. Attention en rentrant ce soir, hein, t'oublie pas le pingouin.
Je ferai bien le pingouin.
On passe à l'interview.
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Il
y
a minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Tu as deux invités ce soir, Romane.
Oui, aujourd'hui, nous vous proposons une plongée sonore et scientifique avec Vox Océano, un projet qui croise art, chimie et écologie. Le Vox Océano, c'est un disque vinyle pas comme les autres, puisqu'il est entièrement composé d'algues et qu'il donne à entendre les chants des baleines. Pour en parler, nous recevons Guillaume Julien, chargé de communication à l'université de Rennes 2. Il porte un manteau vert à capuche parce qu'il fait très très froid dans le studio. Et on reçoit aussi Jean-Luc Audic, chimiste ayant participé sur le projet. Lui porte une chemise bleu marine qui a l'air bien chaude aussi. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce projet exactement ?
Ah bah, d'abord, je souhaite remercier Syllab de nous avoir invités. C'est agréable de venir vous rejoindre ici. Et alors oui, je m'empresse de vous raconter un peu ce projet. L'idée de Caroline, c'est une plasticienne, une artiste de la région parisienne qui travaille, on va dire, sur beaucoup en lien avec la nature, l'environnement. Et elle travaillait avec un bioacousticien qui s'appelle... Olivier Adam. Excuse-moi Olivier. Olivier Adam, un célèbre bioacousticien qui travaille à Sorbonne Université et qui passe sa vie, une vie merveilleuse sur les océans, à enregistrer dans les océans le son des cétacés. Alors je dis les cétacés parce qu'il n'y a pas que les baleines, il y en a d'autres qui parlent, qui chantent et c'est vraiment magnifique. Ces chants, on pense les connaître, mais il y a vraiment des choses assez surprenantes. Je vous invite à venir d'ailleurs et les écouter. Et avec lui, Caroline avait suggéré d'enregistrer ces chants de baleines sur un disque qui serait en algues. Elle s'est dit pourquoi on ne pourrait pas faire un disque support d'enregistrement en algues. Et il lui dit bah, moi, écoute, bingo, hein, si tu trouves quelqu'un pour te faire ton disque en algues, pourquoi pas. Et c'est avec ce projet qu'elle est venue me voir à l'Institut des sciences chimiques à Rennes. Elle a envoyé un mail comme ça. Et moi, j'ai répondu en disant ouais, c'est marrant comme truc, moi j'aimerais bien aller voir. Je savais déjà que d'utiliser les alginates n'était pas forcément une bonne idée, donc on est parti.
Alors c'est quoi les alginates ?
Alors ce sont des choses qu'on va trouver, des molécules qu'on va trouver dans les algues et qui sont déjà utilisées par les chimistes, si vous voulez, hein, pour des polysaccharides qui sont utilisés pour de multiples applications. Et leur principal problème, c'est que c'est soluble dans l'eau. Donc imaginez un vinyle qui serait soluble dans l'eau, c'est pas... Voilà. Et donc, on est parti. Je lui ai dit, écoute, ça va pas être simple, hein, mais j'ai des idées. Moi, j'avais mes propres idées, mais elle aussi avait les siennes. Et on s'est vraiment rencontrés là-dessus et on a exploré. Elle venait, on a fait une convention d'accueil avec l'université de Rennes. Et puis, bingo, quoi. On est parti sur un an déjà pour commencer, en se disant, tiens, on va regarder ce qu'on peut faire. Elle venait, j'ai un mélangeur, on mettait tout là-dedans, on regardait ce qui sortait, on pressait, on gravait, on faisait. Et on s'est très vite rapproché de MPO, qui est une entreprise qui fabrique des vinyles, des CD, des DVD. Hein, c'est un grand acteur historique hein, de ce monde-là. Et puis, ils nous ont aidés, ils nous ont fourni des disques, des masters, pour pouvoir presser nos galettes. Et puis, bon an, mal an, on est arrivé à sortir nos premières formulations. Et pendant qu'on explorait avec Caroline le potentiel des algues pour faire ces disques, moi, j'explorais le potentiel de tout autre type de matériaux biosourcés et biodégradables, mais on va dire avec des propriétés acoustiques un peu meilleures, un peu améliorées. Elle, c'était vraiment son projet artistique. Moi, c'était un projet plus de substituer le PVC qui est actuellement utilisé pour fabriquer les vinyles. Voilà. Et puis bah, les deux ont abouti, voyez-vous. Donc on a le plaisir de présenter ça demain.
Et pourquoi avoir choisi le disque vinyle comme point de départ plutôt qu'un autre support sonore ?
Comme quoi ?
Comme le CD.
Ah, alors ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et puis, alors on s'est basé sur des données économiques qui font qu'aux États-Unis, le vinyle est passé devant le CD en termes de support physique. Je me dis que ça va peut-être être le cas en Europe. Et quand je parlais à mes étudiants, je dois dire que j'ai plus de ressenti sur le vinyle, enfin positif on va dire, sur le vinyle que sur le CD. Et on n'aurait pas pu intervenir à ce point sur le contact entre le diamant, enfin le matériau support et le... ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais. Ah, c'est pas bête comme remarque, ceci dit. Oui. Dans le vinyle, c'était le côté... vous voyez ce que c'est, enfin, quand on met un CD pour le lire, on voit pas la matière tourner, enfin, on le voit pas, concrètement. Là, le vinyle, il y a vraiment le rapport à la matière, à ce son chaud, à ce... voilà.
Et on peut peut-être dire un mot sur l'œuvre qui est présentée, donc qui s'appelle Vox Oceano, et qui est présentée en fait dans un igloo en byssus de moule. Donc c'est la forme d'un igloo, mais le revêtement, c'est cette petite partie filandreuse. Quand vous achetez des moules, ou si vous en trouvez sur la plage, c'est cette partie filandreuse qu'on enlève quand on veut les manger. Et donc, il y a une entreprise qui s'appelle Bisco qui ont fait un matériau isolant, un peu comme dans de la laine de verre ou de la laine de roche, et donc qui recouvre cet igloo. Et c'est vrai que si à l'intérieur de cet igloo, donc il y a une platine vinyle sur laquelle on peut jouer le disque, c'est le principe de l'œuvre. Évidemment, si ça avait été un CD, je pense que artistiquement, ça aurait été peut-être un peu moins esthétique. Là, vraiment, en fait, quand on rentre dans la pièce, donc au diapason, il y a cet igloo, il y a un support un peu éclairé, c'est assez, un peu fantasmagorique quand on entre dans l'igloo, et donc on peut lire ce vinyle. Je peux vous mettre un tout petit extrait si vous l'entendez ce son de ce
qu'on parlait de. Ah, dommage que vous ne l'ayez pas envoyé avant. Je sais pas
mais
si
bien
c'est
sûr,
Cali
ouais.
Là.
Voilà, c'était un teaser de baleine.
Voilà.
Magnifique. Donc un igloo en byssus de moule et un disque vinyle en algues. Pourquoi avoir choisi de travailler sur des matériaux naturels ?
Ah, alors l'objet de la quête de Caroline, c'était vraiment lié à l'éphémère. C'est-à-dire que tout de suite, ce qui choque les gens, c'est de se dire, mais quel est l'intérêt de substituer, enfin un truc qui marche, du PVC, certes c'est pas génial pour l'environnement, mais bon, moi je vais le garder dans ma vinyle. Low-tech, enfin de voilà. Donc ça nous a amené à nous questionner sur notre lien avec l'éphémère, avec le temps, avec ce qu'on souhaite laisser comme empreinte. Est-ce que c'est important de garder nos enregistrements pendant 100, 200, 300 ans, j'en sais rien. Et puis finalement, personne n'écoute plus. Je veux dire, on est abreuvé actuellement d'une multitude de sources sonores. On est abonné hein, à des listes de diffusion, enfin des médias en ligne. Je veux dire, on a accès au catalogue mondial de tous les artistes instantanément. Donc la question se pose même plus de ce support physique. Et donc, Au contraire, c'était l'occasion de se poser la question, de se réunir autour d'un objet éphémère, en se disant on est là pour le voir, pour venir l'écouter ensemble. Et c'est un objet de rencontre. Et une analogie que faisait souvent Caroline, c'est de se dire, quand vous avez une bonne bouteille de vin que vous voulez déguster avec des amis, avant de la boire, vous ne vous désespérez pas du fait qu'elle sera bue à la fin de la soirée et qu'il n'y en aura plus. Le plaisir, c'est de la consommer ensemble. Et même chose pour ce disque. Il y a, tant qu'il vit, on est toujours en extase de se rendre compte que le son est toujours émis, de la même façon. Et à chaque fois, avec angoisse, elle me dit qu'on fait une nouvelle présentation. Elle me dit, mais écoute-le vite fait quand même, ça se trouve, il n'y a plus rien. Et non, le son est toujours parfait. Et un jour, il va disparaître. Mais ce disque-là, je pourrais le mettre dans mon jardin. Et puis, ça fera de l'engrais pour ce que je vais planter dedans. Alors... moi, je vous disais qu'à côté de ça, j'ai exploré le potentiel dans d'autres matériaux, avec notamment des procédés plus industriels et plus industrialisables. Et notamment, on s'est dit, toujours avec cette idée en tête de biodégradabilité et de faire finir le produit dans l'environnement, imaginez, donc vous tenez, je ne sais pas quelle chanson vous mettez sur votre disque, mais en lien avec l'environnement, vous mettez dans ce matériau ce qu'on peut, nous, grâce à un procédé ingénieux d'assemblage qu'on a mis en place, intégrer ce qu'on veut, des graines de fleurs. Et donc quand vous jetez votre disque, eh bien, à l'emplacement, vous allez retrouver l'année suivante des fleurs. Et ce côté éphémère, c'est toute la beauté justement de ça, c'est-à-dire que ça durera ce que ça durera, mais je vous invite à venir voir, ça va durer 15 jours, pendant 15 jours, il sera là, notre igloo ambitieux de moule, avec à l'intérieur ce fameux disque qui tourne en permanence, qu'on peut écouter au casque. Et ce midi, j'étais avec une quinzaine de gamins qui étaient là au diapason, parce qu'ils avaient une formation d'une école de cirque ou du sport. Et donc ils étaient là vraiment, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais alors, c'était incroyable de voir la façon dont ils étaient, le côté unique de l'objet. C'est-à-dire que je leur ai dit, écoutez, il y a 6 exemplaires au monde. Vous êtes le premier au monde à écouter des chants de baleines sur un disque en algues. Alors ça les... Ah waouh. Et tout de suite, ils vont au-delà. Ils n'étaient pas choqués par le côté éphémère, paradoxalement. Et il y en a un qui a été plus loin, qui me dit, ouais, mais finalement, on l'écoute sur l'appareil. Ah, il ne connaissait pas le nom de la platine. J'ai dit, oui, une platine disque, ouais, mais elle n'est pas dégradable. J'ai dit, non, pas encore. Donc, ils vont bien plus loin que nous, hein, ils ont beaucoup plus. Mais par contre, l'accueil était vraiment chouette de leur part. Je pensais que c'était plutôt d'arrière-garde, peut-être pour eux. Je me dis, le vinyle, ils ne connaissent pas. Non, de voir un truc qui tourne, qui balance ce son-là, ça les a touchés vraiment. Ils appelaient leurs copains, ils revenaient de plus en plus nombreux à chaque fois. Et de voir la progression, comment on est parti de rien, d'algues, de poudre d'algues, qu'on a incorporé ça. Et ouais, c'était rigolo à voir.
Et justement, côté son, est-ce que le son il est altéré par rapport à un vinyle traditionnel?
Alors, il y a deux réponses. Sur le disque de Caroline, c'est-à-dire celui à base d'algues, effectivement, le son, c'est pas ce qui est mis en avant. Mais je dirais que les craquements et le côté un peu altéré du son fait partie de l'immersion, parce que ça s'écoute au casque, et les gens pensent que c'est le bruit de la mer... mer, vent, mais on distingue de très clairement le chant des baleines, rassurez-vous. En revanche, ceux qu'on a fait en matériaux biosourcés et biodégradables, eux, le son est de qualité équivalente. Alors j'aimerais maintenant pouvoir le comparer avec un vinyle, parce que nous on le fait avec notre propre oreille, je vous garantis que le son est identique à l'oreille humaine. On a, sur ces matériaux, notamment utilisé des plastiques qui sont fabriqués par des bactéries. Donc ces bactéries, comme on est en Bretagne, région où l'agroalimentaire, comme vous savez, est très répandue, eh bien, on donne des déchets de l'industrie agroalimentaire pour alimenter des bactéries. Ces bactéries, dans une situation de stress, vont être en mesure de fabriquer ce polyester, c'est un plastique, qu'on vient récolter. Et à partir de ce polyester-là, on peut faire... des disques. Et on est parti sur des formulations à base de ces polyhydroxyalkanoates. Ce sont ces polyesters-là. Vous imaginez des petites bactéries qui fabriquent un vinyle? C'est chouette, hein?
C'est très chouette. Et pourquoi l'Université de Rennes accueille-t-elle ce projet?
Alors en fait, depuis quelques années, il y a beaucoup d'artistes qui sont en résidence à l'université. Donc, alors moi, je suis plutôt à l'université de Rennes et pas à Rennes 2, mais j'imagine qu'il y en a aussi à Rennes 2. Et donc, ces artistes travaillent auprès de scientifiques sur des projets art et sciences. Et l'intérêt, en fait, c'est que le questionnement d'un artiste est complètement différent de questionnement entre scientifiques. Et en fait, là, ce projet-là est vraiment un très bon exemple parce que bah, y a des questions de... On essaie de créer une œuvre, on échange avec un scientifique. Mais au final, l'artiste donc, va créer son œuvre, mais le scientifique, ça va l'interroger sur... peut-être la création de nouveaux matériaux ou aussi sur un nouveau processus industriel, voire même des débouchés. Et là, on est vraiment sur ce cas-là, c'est-à-dire qu'en gros, la création d'une œuvre et le travail, les étincelles qui sont créées entre ce dialogue art et science, en fait, peut amener à l'invention de nouveaux matériaux ou de nouvelles découvertes font aussi avancer la science, comme ça fait aussi avancer une production artistique, parce que, évidemment, que l'artiste, quand il échange avec un scientifique, il se confronte à des méthodes complètement différentes. Et en même temps, il y a beaucoup de choses en commun, notamment, l'imagination, qui est chez un scientifique toujours à l'œuvre, et aussi une forme d'apprentissage, parce que le scientifique, il est toujours en train de progresser, sans jamais avoir toutes les réponses à ces questions. Et c'est très proche, en fait, d'une démarche artistique.
Pour donner un exemple concret, s'il nous reste du temps...
Pas beaucoup, mais on peut finir rapidement.
Justement, le Bicus de Moule, pour revenir à ça, c'était une volonté de Caroline, parce que son igloo, elle l'a fait en différentes matières auparavant déjà. Mais le Bicus de Moule, elle avait vu ça récemment, ça lui avait vraiment parlé. Et moi qui travaille dans le domaine des matériaux, je me dis, tiens, c'est marrant, parce que dans le Bicus de Moule, ça colle quand même. Et donc, en discutant avec Louison, qui malheureusement n'a pas pu être là avec nous ce soir, elle me dit, oui, effectivement, il y a un truc qu'on appelle chez le batch chez nous, parce que ça colle au doigt quand on nettoie le Bicus. Et c'est en fait une sorte de collagène. Et il y a des intérêts évidents à l'utiliser dans des formulations. Et j'en ai parlé à Ronan de Bullinger, qui est un collègue du laboratoire verre et céramique, qui me dit, le jour même, il est venu voir l'expo de Caroline pour voir à quoi ressemble le Bicus. Et il me dit, ouais, ok, on va aller voir ce qu'on peut faire avec ça. On a parlé de chromatographie, d'extraction à fil supercritique. Et Caroline a dit, j'adore vous entendre parler, parce que moi, jamais j'aurais parlé de ça. Elle dit, voilà, moi, j'ai accompli ma tâche. Vous voyez à quoi ça peut servir, finalement.
Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence. Et si vous voulez en savoir plus sur le disque d'algues ou l'igloo en Bicus de Moule, rendez-vous dès demain au diapason à l'Université de Rennes. L'installation est visible jusqu'au 28 janvier. Et l'exposition s'ouvre avec un vernissage demain à 18h30. Attention, il faut réserver sa place sur le site billetweb.fr/vox-du6-océano.
Et en gros, il y a une conférence et c'est suivi d'une présentation de l'œuvre. On peut venir directement sans réserver. Je pense qu'on a une petite marge.
Vous serez les bienvenus. Ouais. Pas de souci.
Merci.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
6h avant minuit.
Une toute nouvelle chronique aujourd'hui. On parle musique avec Maud dans La Subjective.
Coucou tout le monde.
Salut.
La première fois que vous entendez ma petite douce suave. Parce que de base, je suis à la technique. Mais là, les prochaines minutes, on va parler musique un petit peu. En gros, je vais commencer par les Vrap. Les Vrap 2025 que tout le monde a pu avoir sur ses applications de musique, sur Deezer, sur YouTube Music, sur SoundCloud. Et même pour les derniers utilisateurs de Spotify, entre parenthèses, la honte. Enfin bref, tout le monde a eu le droit à son petit récap de l'année 2025. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est tout simplement le récapitulatif des artistes et des morceaux que vous avez le plus écoutés courant de l'année 2025. Par exemple là, je fais un petit tour de table. Estelle, je me dis que sûrement la première place était quand même prise par la Boss Lady Théodora. Et peut-être la deuxième place, on va dire, les chants de supporters de l'OM. Je me dis, il y a peut-être un monde. Et là, en face de moi, je me dirais peut-être que Héloïse, quant à elle, a sûrement dû faire partie des 0,1% des fans d'un groupe de paladins un peu malicieux, faisant de la musique qui tabasse dans une clairière magique entourée de gobelins.
Oui. C'est vrai.
Ouais, autant dire du bon gros métal sa mère, quoi. Bref, que de la variété. Et c'est pour dire que 2025, c'est que nos oreilles, elles ont été gâtées. J'irais même jusqu'à dire que 2025, musicalement, c'était miam miam croustiflex. Je l'ai dit. Malgré des budgets culturels en baisse et une situation politique complexe, on n'a pas été en manque de projets musicaux et surtout plus ouf les uns que les autres. Attention, liste non exhaustive à suivre. Wet Leg, Deftone, Thirsteel, le retour de Compromat, The Last Dinner Party, Viagra Boys, Get Down Service, Rosalia, Yard, Black Sidao, Deets, Bobs. Je reprends ma souffle. Même pour chez nous, dans le Grand Ouest, nous avons eu l'honneur d'écouter les dernières sorties de Megadisc, Don Diaz, Margaret Thatcher, The Big ID, Fragile, Odolena, Mon Coco. Bref, énormément de choses. Et d'ailleurs, une mention spéciale à Margaret Thatcher et Odonella qui ont été suivies par les Transmusicales cette année. Je ne sais pas si vous êtes allés voir leur concert aux Libertés, mais c'était super top. J'y étais pas, mais c'était super top. En ajoutant bien sûr l'émergence de tellement d'autres nouveaux groupes et de nouveaux projets, je sais pas vous, moi j'en ai un peu la tête qui tourne. C'est pour ça que ce soir, on m'a fait l'honneur de pouvoir parler un petit peu dans les micros de ces labs. Du coup, je vais vous partager mes petites découvertes de 2025. Parce que j'en ai envie et que j'ai des super bons goûts musicaux, on va pas se mentir. En gros, je vais un petit peu vous imposer ma musique pendant ces quelques minutes. Et en soi, j'ai un petit temps limité et un top 3 d'albums de 2025, c'est super court et c'est super dur surtout. Mais j'ai réussi à vous faire une petite sélection. Tout d'abord, on va commencer par l'album The Real Sensation de Restop, sorti le 26 septembre 2025. Et ça donne ça. Bref, un groupe angevin qui nous ont concocté en collaboration avec le dieu vivant sur Terre, Daniel Fox, le bassiste de Djilaben, super groupe d'ailleurs, un album aux petits oignons. Je cite ici Stéphane Vidrock de Mono, le noise hard rock de Sonic Youth ou Djilaben est ici contrebalancé avec un sens de l'équilibre assez bluffant par des accents aériens orientés dream pop ou bien par de belles mais angoissantes nappes synthétiques du côté de la cold wave. En gros, je traduis. Pour les gros kiffeurs de punk, de noise, de post-punk, de hard rock, un petit peu envoûtant, bah cet album il est complètement pour vous. Et je vous le conseille notamment avec le clip Accutane, parce qu'il est trash et il est topi-top. Mon deuxième album, c'est Is It Now d'Automatique, sorti aussi le 26 septembre 2025, entre des petites mélodies curieuses à la Clairo, notamment avec le traitement de la voix qui est assez ouf, et des montées d'agressivité qu'on kiffe bien avec des synthés bien ceinturés, bah Is It Now, c'est une petite balade pour sautiller au soleil. C'est vachement cool. Et de plus, l'identité visuelle construite tout autour de cet album, il est juste fabuleux, magnifique, incroyable. Et petite mention spéciale à leur clip Mercury, que je vous ordonne tout simplement d'aller regarder. Et ça donne ça. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'écouter le morceau en entier, je crois qu'il a été rentré dans la prog de Célab.
Quelle bonne prog.
Et ouais, super prog. Je sais pas qui fait cette prog, mais elle est super. Elle est super. Enfin bref, du coup, j'ai lâché la petite pub là pour Célab. Et maintenant, je peux passer à mon troisième album qui s'appelle The Crux Deluxe, sorti le 12 septembre 2025, signé Joe. Pour les connaisseurs, peut-être que vous le connaissez sous le nom de Joe Carey ou dans le rôle de Steve de Stranger Things. On oublie tout ça, et juste on va retenir le nom de Joe, parce que ce gars-là, il fait de la musique de zinzin. No, I don't look back in anger. Do you? Falling back to her. Sounds so easy. Il est revenu avec cet album hyper hybride, avec une patte beaucoup plus folk par rapport à ses deux anciens albums qui étaient un peu plus indie, pop, rock. En gros, je peux juste que vous le conseiller, surtout qu'il a une petite bouille d'ange et que rien pour ça, en vrai, allez streamer sa discographie. Joe, retenez ça, D-J-O, Joe. Tous mes copains en peuvent plus, je fais qu'en parler, mais il est fabuleux. Voilà, c'était mon petit top 3 de mes albums de 2025. Mais en réalité, bah, j'ai pas trop réussi à respecter les règles parce que résumer toute une année à trois albums, c'est pas possible. Et je peux pas passer surtout à côté des deux ovnis de 2025 qui a été le premier, Pretty Doll Corpse, de Femme Togo, Petite Sœur et Néophrone. Cet album, c'est tout simplement un raz-de-marée. Il a bousculé tout le monde entre des prods hyper pop, déstructurés, avec des paroles hyper engagées, trash, actuelles. Enfin, juste, il a transcendé plus d'une personne, dont moi. Je peux que vous le conseiller parce que c'est un album qui a tout compris à l'ère du temps, de manière générale, actuelle. Et le deuxième album que je peux que conseiller, petit big up à toi, Estelle. Bah, c'est la Boss Lady Théodora, en fait. Boss Lady, tout simplement. Elle a bousculé le game. Rien qu'à voir les chiffres, en quasi deux ans seulement, elle est devenue la deuxième artiste française la plus streamée après Aya Nakamura, avec plus de 7 millions d'auditeuristes par mois sur Spotify. Et puis, notamment aussi sa dernière sortie de Mélodrama en featuring avec This Is, 83 millions de vues sur Spotify. C'est quand même pas rien en seulement 4 mois. En gros, elle touche à tout et elle réussit tout. C'est la Slayeuse folle de 2025 avec son album Mega BBL sorti le 28 mai 2025. Que du kiff, quoi. Voilà, j'espère que mon petit récap de mes albums 2025 vous a plu. Perso, moi j'adore mes goûts musicaux, je suis aussi très narcissique, je kiffe. Et je vous quitterai avec trois recos qu'il faut absolument surveiller, qui sortiront en 2026. C'est Slipher Mode, Plaxidaou et le grand, le majestueux Yann Wagner. Et petite mention aussi aux copains, n'hésitez pas à aller épier le taf du groupe Ken et Lonely Jean. Il n'y a aucun monde où vous serez déçus.
Merci beaucoup Maud. Bah, quand tu seras pas trop occupée à sautiller au soleil en écoutant ta musique, reviens nous faire une autre chronique, autre
top. Ce serait que du kiff.
À bientôt. Je te laisse du coup appuyer sur le répondeur vu que c'est toi aux manettes. Allez.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô. Allô.
La radio sauvage.
Bon, le répondeur est vide ce soir. Pas de fan d'Estelle, pas de fan de personne d'ailleurs. Bon, faut bien que ça s'arrête.
Où sont mes fans?
Laissez-nous un message vocal. Je vous redonne le numéro. C'est le 02 30 96 25 35. Si vous allez voir l'expo Vox Oceano, par exemple, bah, dites-nous ce que vous en avez pensé. Sinon, donnez-nous des idées de sujets. Faites-nous des retours sur nos émissions. On attend votre parole. 02 30 96 25 35. Je vous rappelle qu'on propose un jeu concours aussi en ce moment avec le festival Autre Mesure de Rennes, un festival qui célèbre la musique contemporaine. On vous propose de gagner une place pour le concert Stimmung du compositeur allemand Stockhausen. C'est joué par l'ensemble Oxymore à la chapelle du Conservatoire de Rennes le dimanche 25 janvier prochain à 15h. Pour jouer et pour gagner, vous avez besoin d'un mot de passe.
Si bémol majeur.
Ah, on avait le sifflet coupé. Vas-y.
Si bémol majeur.
C'est ça, le mot de passe, c'est si bémol majeur à rentrer sur c-lab.fr. Merci Maud pour la technique. À demain dans 6h avant minuit.
Si lab. La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.